sentent mauvais, les juifs ne se soutiennent qu'entre eux, les homosexuels sont tous efféminés, les américains sont puritains, les français sont arrogants, les allemands sont des ploucs. On a tous déjà entendu ce genre de préjugés, mais comment sont-ils apparus? Qui les a entretenus au cours de l'histoire? Pour quelles raisons? Un livre s'est donné pour ambition de décoder, de raconter, mais aussi de désamorcer ces idées reçues. Il s'appelle tout simplement « Histoire des préjugés ». Il réunit 39 historiens, Gérard Noiriel notamment, Catel Berthelot, Michel Pastoureau, Diane Cooper-Richer, Jean-Noël Jeannonet et bien d'autres, sous la direction de Jeanne Guéroux et Xavier Mauduit, qui est avec nous ce matin. Bonjour.
Bonjour, Charlotte de Coquer.
Xavier Mauduit, vous êtes agrégé et docteur en histoire. Vous êtes aussi un homme de médias. Vous avez longtemps travaillé pour France Inter. Aujourd'hui, vous êtes chroniqueur dans l'émission 28 minutes sur Arte et vous animez aussi le cours de l'histoire sur France Culture. Alors, ce projet de faire une histoire des préjugés, de quoi est-il parti? Est-ce que c'est une forme de curiosité pour les a priori, qui sont très répandus évidemment, ou bien aussi l'idée de rendre justice aux victimes des préjugés?
Ah, c'est une belle approche, hein, rendre justice aux victimes des préjugés, parce que effectivement, avec Jeanne Guéroux, en étudiant ces choses particulières, ces préjugés difficilement cernables, on se rend compte très vite qu'ils peuvent provoquer la mort. Et on parle là de mort par millions de personnes, car ce sont ces préjugés qui sous-tendent toutes les discriminations, qui conduisent pour l'antisémitisme à la Shoah, qui conduisent pour tous les préjugés sur les Noirs à l'esclavage, et on sait l'horreur de toutes ces histoires, et puis même au niveau des vies individuelles, hein, ça détruit des vies. Et ce qui nous a intéressé en fait, c'est qu'avec Jeanne, nous travaillons sur de l'histoire, et bien souvent, le préjugé est mis de côté dans l'étude de l'objet historique, parce que, Charlotte, nous savons tous qu'ils sont faux, ceux que vous avez évoqués, mais on le sait que tous les roux ne sentent pas de mauvais, on sait que toutes les femmes ne sont pas hystériques, on le sait, c'est comme une évidence. Et pourtant, ils sont là. Alors dans la démarche historique, bon, bah, on est sérieux, on bosse sur les sources, on travaille, et ce qui est faux, on le met de côté, et où on l'étudie comme un effet secondaire. Et là, ce qu'on a voulu faire, c'est inverser le mouvement et mettre au cœur de l'étude le préjugé, ce que habituellement on écarte, et on s'est rendu compte qu'il y avait tant et tant d'histoires à écrire.
Sur la couverture du livre, il y a une définition du mot préjugé issue du trésor de la langue française informatisée. Je la lis. Opinion hâtive et préconçue, souvent imposée par le milieu, l'époque, l'éducation ou due à la généralisation d'une expérience personnelle ou d'un cas particulier. Alors, il y a un mot très interpellant dans cette définition, à mon sens, c'est le mot imposé. Ça veut dire qu'un préjugé, c'est pas quelque chose qu'on a en nous a priori, mais que vraiment on nous l'a imposé.
On nous l'a imposé sans savoir comment il est arrivé jusqu'à notre esprit. C'est sans doute moi ce qui m'a le plus surpris en travaillant sur ces préjugés, c'est que je les connaissais tous. Je les connaissais. J'avais l'idée en tête, tout en sachant que c'est faux, hein, mais que les Chinois sont fourbes, que les Tziganes sont des voleurs de poules. Je sais pas, et je peux pas vous dire comment je le sais. Je pense que tout le monde, auditeur, auditrice, peut se poser la question sur ces préjugés, mais oui, mais comment je le sais? En fait, personne ne nous les a appris. Personne n'est venu un jour en nous disant « c'est ainsi ». Donc, dès lors, la question, c'est comment ils sont arrivés dans notre esprit.
Et ben, alors justement, si on prend les Tziganes voleurs de poules, par exemple.
Ça se suinte dans la littérature. C'est partout. C'est au cinéma. Ce sont ces narrations familiales. Il y a un camp de gitans, comme on dit. Ah, un camp qui s'est installé là. Alors, attention. Vous voyez, ce sont des petites phrases, des petites choses. Dans la littérature, c'est juste une petite évocation. Vous prenez la littérature du 19e siècle, avec même nos plus grands auteurs. L'antisémitisme, il n'apparaît pas de manière première. Les Juifs aiment l'argent. Magnifique préjugé qui a traversé les siècles. C'est pas dit comme ça. C'est qu'il va voir un banquier juif. Vous voyez? Bon, et bien c'est comme ça qu'ils arrivent dans notre esprit. Et c'est leur force absolue. C'est qu'ils n'ont pas, au niveau de nous-mêmes, de l'individu, une origine évidente. On ne sait pas d'où ils viennent, mais ils sont là. Et dès lors, il suffit qu'on commence à titiller la question, ils surgissent, ils sont toujours présents en fait.
Et parfois, on identifie quand même assez clairement les raisons, hein, et c'est tout l'objet de ce livre aussi. Si on veut, par exemple, prendre le préjugé, alors il y a plusieurs d'ailleurs préjugés sur l'odeur de cette certaine catégorie de population. Il y en a plusieurs, et notamment les roux sentent mauvais et ils sont fous. Alors ça, par exemple, c'est un article de Michel Pastoureau. Ça vient d'où?
Le grand spécialiste des couleurs qui est Michel Pastoureau, et des animaux aussi. Parce qu'il faut rappeler que ce regard porte sur une histoire des représentations. Michel Pastoureau explique très bien, et alors là, c'est pour ça que recevoir un texte de Michel Pastoureau, c'est toujours très éclairant. Combien? Déjà, avant tout, il faut rappeler que la définition d'une couleur ne correspond pas aujourd'hui à ce que nos ancêtres percevaient. Le roux d'aujourd'hui n'est peut-être pas le roux du passé. Et bien, Michel Pastoureau montre très bien l'évolution du regard porté sur le roux, et sa conclusion est assez évidente en fait, et c'est très éclairant en cela, c'est que le roux est différent. Parce que quand la majorité de la population n'est pas rousse, il va y avoir une petite population qui est différente. Donc, dès lors, pour comprendre la différence, qu'on ne comprend pas, on va chercher des stigmatisations. On va coller des étiquettes. Vous l'avez bien dit, hein, Charlotte, tout à l'heure, les préjugés, ce sont des idées préconçues. Il faut rappeler, il y a des préjugés qui sont positifs. Hein. On a des Italiens qui chantent bien et des Belges extrêmement sympathiques. Vous voyez, c'est comme ça. Et puis, nous, ce qui nous intéressait, ce sont les préjugés méchants. Et dans le cas des Rousses, c'est vraiment ça. C'est qu'on stigmatise. Et très vite se construit à travers l'iconographie l'image du roux traître. C'est Judas. Vous voyez, c'est Judas. Et tout ça est relié à cette couleur, celle du renard. Parce que le renard est fourbe, le renard est rusé, préjugé aussi. Donc, on a ici, avec ce cas des roux, mais ça vaut pour l'ensemble des préjugés, la volonté de trouver une origine, mais qui n'existe pas. Il n'y a pas une date précise de la mise en place d'un préjugé. Mais de trouver un moment où il commence à se développer, et surtout, et c'est ça qui est passionnant, c'est l'évolution. Comment ce préjugé qui naît dans un contexte précis, qui souvent d'ailleurs s'appuie sur une micro-réalité, arrive à traverser les siècles en s'adaptant. Parce que les contextes changent, les représentations changent. Eh bien, le préjugé est extrêmement malléable et il s'adapte. Parfois, il s'endort. Pendant des siècles, il hiberne. On n'en parle pas parce qu'on n'en a pas besoin. Et d'un seul coup, boum, il surgit parce qu'on en a besoin. Le préjugé est toujours lié à une utilité.
Vous vous intéressez aussi à certains préjugés d'ailleurs sur des peuples qui n'existent plus mais qu'on continue à enseigner. Par exemple, les barbares sont des vandales. Mais ce que je trouve intéressant, ce que vous disiez, Xavier Mauduit, c'est qu'on comprend en vous lisant que quel que soit le préjugé, si on peut retracer son histoire, c'est précisément parce qu'il est encouragé, construit avec la complicité de certains groupes. Gérard Noiriel évoque par exemple le rôle des médecins dans les préjugés sur les homosexuels.
Oui, oui, parce que le mot que vous avez utilisé, construit, c'est ça, c'est une construction sociale. Et on parle des médecins pour les homosexuels, Gérard Noiriel a fait ce texte sur les homosexuels sont efféminés, parce que, évidemment, les homosexuels sont efféminés. Dans l'incompréhension de quelque chose qui ne correspond pas à une norme imposée, il faut discriminer ou en tout cas dénigrer. Et là, pour la féminisation, il y a cette lecture médicale qu'on va retrouver dans la même lecture pour l'histoire des femmes, qui est une lecture genrée. Et ça cadre pas avec cette morale imposée judéo-chrétienne, pour le dire, mais qui est compréhensible que un homme, une femme forment un couple qui n'est pas une histoire continue. On sait bien que tout ça, ça a évolué. Et l'homosexualité pose un problème dans cette histoire-là. Et ce qui est intéressant de passer par l'histoire pour réfléchir sur ces discriminations, c'est de montrer que ça n'a pas été toujours le cas. Si on prend l'homosexualité, il y a des moments où ça se passait très bien et il y a des moments où ça se passe mal. Et le discours médical, il est très fort parce qu'il donne la preuve scientifique. Je vais vous le dire autrement et vous allez comprendre la perversité d'analyse. Les homosexuels sont efféminés. Pourquoi ? Voilà un mode de réflexion logique d'analyse. Les femmes sont hystériques. Pourquoi sont-elles hystériques ? Vous voyez, le discours médical, au fil des siècles, aujourd'hui c'est différent, ne cherche pas à dire est-ce que les homosexuels sont efféminés, est-ce que les femmes sont hystériques. Non, non, le préjugé est tellement fort qu'il paraît comme une évidence et après on cherche à le prouver.
Dans cet article, justement, sur les homosexuels, il y a une autre particularité des préjugés que vous évoquez, c'est que certaines catégories de population visées par ces préjugés vont le retourner en leur faveur, une forme d'empowerment, retourner le préjugé en l'assumant et en s'en montrant fier, c'est aussi une manière de le déjouer.
Oui, très juste ça, parce que on voit très bien que dans les modes de défense, prendre les armes qui nous vise, ça permet d'affirmer son identité. Et c'est vrai que tous ces mots de folle, de pédé, de gay, etc., qui étaient là pour attaquer, a été repris par le mouvement LGBT+, et ça permet aussi de renforcer son identité. C'est rigolo de voir que dans les préjugés, vous avez plein de fois ce mouvement-là. Par exemple, le mot intellectuel, qui naît au moment de l'affaire Dreyfus. Hein. C'est Zola qui prend la parole, j'accuse, 1898, et puis d'autres personnalités qui n'ont pas à vocation prendre la parole dans le champ politique s'associent à lui. Eh bien, ceux qui les dénoncent disent « Regardez ces intellectuels !» Vous voyez, avec... Et L'intelligence, c'est de prendre ce mot-là et de l'inverser. Donc oui, le préjugé, c'est en ça qu'il est difficile à déconstruire, c'est qu'il est utilisé par les groupes discriminés parce que ça renforce l'identité. Non, mais c'est bien souvent ça avec les peurs, parce qu'on participe ici d'un mouvement qui est lié à la peur. C'est chercher à se défendre et on cherche par tous les moyens à se défendre. Et parfois, bah ouais, en acceptant le préjugé parce qu'il renforce la propre identité.
Alors il y a plein de choses intéressantes hein, dans cette histoire des préjugés. Notamment, on parlait des Chinois tout à l'heure, et là c'est intéressant parce que certains préjugés sont faux et d'autres sont vrais, mais comme ils, de la façon dont ils sont présentés, en fait, ils sont faits pour dénigrer, et notamment il y a les Chinois mangent du chien, c'est un article de Florent Kellier. Alors effectivement, les Chinois mangent du chien, mais c'est dans une toute petite partie de la Chine, et puis par ailleurs, on en mange ailleurs, en Afrique, il y avait encore des boucheries de chiens en Allemagne jusqu'à il n'y a pas si longtemps, mais en disant ça sur les Chinois, c'est fait évidemment pour les dénigrer. On voit aussi la différence des préjugés en fonction des pays. Hein. En France, on a peur des banlieues. Aux États-Unis, c'est l'inverse, on a peur des gens du centre-ville. Je vais devoir lancer Étienne Dao et donc je ne vais pas vous poser de questions supplémentaires, Xavier Mauduit, mais en tout cas, tout ça pour dire que ce livre est particulièrement intéressant. Merci d'avoir
été. Merci vivement à vous, Charlotte, et on écoute Étienne Dao, mais alors sans préjugés parce qu'on aime bien.
Parce qu'on adore, évidemment. En plus, c'est le tout nouveau Étienne Dao. Histoire des préjugés, c'est paru aux éditions Les Arènes sous votre direction et celle de Jeanne Guéroux, et le nouveau Dao s'appelle Boy.